Et vous écoutez Radio MDM en direct du studio de Banos. Nous sommes tout près de vous sur le 93.8, mais vous pouvez nous écouter aussi sur le 101.1. Et je le dis à nos invités, vous pouvez aussi nous écouter partout dans le monde sur radio-mdm.fr. Qui sont mes invités? C'est Maxence Amiel et Jules Thévenot. Je vous dis peut-être bonjour quand même.
Bonjour.
Bonjour. Avant, vous êtes là pour nous parler d'une lecture musicale qui aura lieu à Montfort en Chalosse ce vendredi 17 février à 19h. Mais avant de parler de cette lecture musicale, une petite présentation s'impose. Je suis quand même en présence d'un auteur, Maxence Amiel, d'un musicien, Jules Thévenot. Jules Thévenot, on va commencer par vous. Vous avez commencé la guitare pour accompagner, c'est ça, les chanteurs au départ, c'est comme ça
que ça s'est passé? J'ai commencé la guitare, oh là là, ça remonte. J'ai commencé la guitare parce que je voulais faire Jeux interdits à la guitare et j'ai cru comprendre que c'était autorisé de jouer Jeux interdits. Et donc voilà, et puis après j'ai écouté de la musique brésilienne et je me suis dit je vais faire pareil. Et j'ai commencé à travailler là, ce que je pouvais entendre. Et c'était, je sais pas en fait, il y a Fernando Pessoa, le poète, qui a dit « Tout commencement est involontaire ». Dans mon cas, c'est vraiment ça. La guitare a commencé comme une petite compagne d'école. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à chanter et puis à écouter Et puis la guitare est venue, je jouais tout seul, je jouais avec mon frère, on chantait, on faisait du Santana, du Purple, du Lavilliers, et puis de fil en aiguille et de corde en corde, c'est devenu une telle passion qu'en fait à un moment donné je me suis dit que si je pouvais en faire un métier ça serait très bien. Et voilà, c'est devenu un métier passion. Et donc j'accompagne plein de monde, je joue tout seul, je fais des disques, je fais des musiques pour des expos et pour des lectures.
Et oui. Donc voilà, vous avez accompagné Alain Sourig et puis entre autres plein d'autres chanteurs. Et puis vous avez fait des expériences plus expérimentales justement, oui. Comme les métaphysions méditatives. Méditasique. Ah voilà, je savais que j'arriverais pas à le prononcer correctement. Et les rencontres, voilà, pour des lectures musicales, comment ça s'est passé votre rencontre avec Maxence Amiel?
En fait, c'est via la librairie Caractère qui m'a, entre guillemets, embauché, enfin, qui m'a proposé de venir accompagner des lectures, de ponctuer certaines lectures, certaines présentations d'auteurs par de la musique. Par de la guitare, puisque c'est quand même à base de guitare tout ce que je fais. Et puis il y a les gens des éditions de la Crypte qui m'ont vu dans ce cadre-là et qui m'ont proposé à leur tour de faire des interventions auprès de lectures, autour de lectures. Et voilà, la rencontre avec les éditions de la Crypte qui date maintenant de plus de 7 ans. Et un jour, aux éditions de la Crypte, j'ai rencontré Maxence Amiel.
Maxence Amiel, vous êtes auteur et poète, on peut le dire. Vous êtes d'origine normande, vous êtes depuis quelques années dans les Landes, c'est ça?
Tout à fait.
Ouais. Et donc, vous travaillez un petit peu aux éditions de la Crypte ou vous êtes juste édité à la Crypte?
Non, je suis d'abord édité à la Crypte. Depuis, mon premier livre a été édité par les éditions de la Crypte en 2018 et je suis devenu salarié de la maison d'édition par la suite, de par cette rencontre humaine qui a été très forte avec l'équipe de la maison d'édition. Voilà.
D'accord, donc une histoire de rencontre. Et vous avez aussi un passé de chanteur lyrique, expérience que vous avez racontée dans votre premier roman « Au vibrant ». Mais pour ce spectacle, vous lisez, pas de votre prose, mais celle de Bernard Mancier. Qu'est-ce qui vous a donné envie et comment vous avez découvert cet auteur?
Alors, d'abord, ce qui m'a donné envie, c'est que depuis un petit moment, j'ai l'habitude de lire mes propres textes en lecture maintenant depuis quelques années. Et là, depuis quelques temps, j'avais envie un peu de prêter ma voix. J'ai toujours bien aimé dire les textes et j'avais envie de prêter ma voix à des auteurs qui n'étaient pas moi. Et la rencontre avec ce texte en particulier, ça s'est fait de manière vraiment c'est presque le début d'un roman, mais à la maison de la poésie Jean Lalaud, qui est donc située à Jetmo et qui est le lieu où je travaille quotidiennement, se trouve un fonds de poésie qui appartenait à Jean Lalaud. et qui est un des créateurs des éditions de La Crypte. Et dans ce fonds de poésie, j'ai trouvé en fouillant un jour ce livre qui s'appelle « Un hiver » de Bernard Manciette. Bernard Manciette que je connaissais de nom, dont j'avais lu quelques textes, mais je ne connaissais pas du tout celui-ci. Et j'ai commencé à le feuilleter, j'ai été vraiment happé par la langue, par le rythme de ce texte-là, qui est une sorte de suite de tableaux en prose, voilà. Et j'ai été notamment interloqué par une petite note au début du livre qui indiquait que ce texte avait été écrit pour voix et guitare. Et il se trouve que à ce moment-là, nous étions en train avec Jules de travailler à une mise en musique, un duo pour la librairie Caractère sur un de mes propres textes qui s'appelle Perdre la Terre. Et je crois qu'assez instantanément, j'ai écrit un message à Jules pour lui dire j'ai découvert un texte qui a été écrit par Manciette pour voix et guitare. Je pense que c'est un signe. Et voilà, donc c'est comme ça que s'est fait le début de cette histoire.
Et pour voix et guitare, mais pas chanter, vraiment lu, parce que vous auriez pu décider de le mettre en musique.
Tout à fait. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette note existe, qui dit « texte pour voix et guitare », mais le livre n'est qu'un texte. Et donc, il n'y a pas de partition, il n'y a pas de... mais ça, Jules en parlera mieux que moi. Et ce qui est intéressant, c'est que tout est à inventer. Et en même temps, il y a cette indication qui en fait est une invitation, qui a été une invitation pour moi.
Bah alors oui, alors Jules, parlez-nous un peu de musique avant qu'on parle du texte. Mais d'abord, si avant de parler du texte, j'aimerais bien savoir Bernard Manciette. J'avoue, je connais très peu. Pour les auditeurs qui seraient dans mon cas, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire tous les deux? Ou peut-être plus Maxence. Voilà, vous l'avez dit un petit peu comment vous l'avez découvert. Ouais. Mais
moi, je ne suis pas forcément le mieux placé. Je ne suis pas un biographe de Bernard Manciette. Ce que je peux en dire, je vais en dire peu pour ne pas dire de bêtises. C'est un poète, un grand poète landais, très attaché, qui est né dans les Landes, mort dans les Landes, qui était très attaché à la terre des Landes, à sa langue aussi. C'est un poète singulier dans le sens où il a écrit toute sa vie en gascon. Il a lui-même traduit la plupart de ses textes en français, mais la plupart étaient d'abord écrits en gascon. Il y a aussi d'autres grands traducteurs, comme Guy Latry, par exemple, qui ont traduit ses textes. Mais lui était vraiment attaché à cette langue-là. Il a énormément écrit. Il a une œuvre foisonnante en poésie, mais en théâtre aussi. Il se produisait aussi en lecture publique beaucoup, et en musique. Et voilà, c'est un auteur qui a eu vraiment une grande aura dans les Landes, mais même nationalement, et même la légende dit qu'il a été pressenti pour le prix Nobel. Voilà. Aujourd'hui, il est à part dans les Landes, où il a encore, son nom résonne quand même encore beaucoup, mais il est plutôt oublié dans le champ national. Mais voilà, c'est un auteur qui est vraiment très ancré dans les Landes.
Et donc à redécouvrir peut-être mise en musique. Alors comment ça se passe la mise en musique? Vous avez quelque chose d'acté ou il y a plus de l'improvisation?
Oula, il y a de l'improvisation dans quelque chose d'acté. Okay. C'est-à-dire que, en fait, il y a 28 tableaux en quelque sorte de ce texte, de ce grand poème en prose. Donc il y a 28 tableaux. Et la question c'était, en fait, quand on doit imaginer de la musique sur un texte, il y a déjà deux grandes solutions. C'est est-ce qu'on va mettre la musique pendant le texte ou est-ce que on alterne musique et texte. Par exemple, pour Perdre la Terre de Maxence, quand j'ai lu le texte, je lui ai proposé de que la musique soit quasiment en filigrane du texte. Mais une musique complètement différente, avec une guitare électrique, avec des nappes, avec quelque chose de vraiment, vraiment complètement différent. Et quand j'ai vu le texte, quand j'ai lu le texte de Manciette, je me suis dit que ça n'allait pas coller. On a fait un premier essai, ça ne marchait pas. Le texte a trop de puissance pour que la musique... En fait, la musique viendrait empêcher le texte d'exister et inversement, le texte... Enfin, dans ces cas-là, pourquoi mettre une musique si c'est pour nuire au texte? Donc, on a fini par convenir qu'il était préférable que qu'il y ait de la musique, du texte, de la musique, du texte. Donc la musique vient ponctuer le texte, mais vient comme une sorte d'échappée un petit peu pour que le texte puisse continuer à résonner. mais et inversement. Donc après, la question, c'est 28 tableaux. On regarde le texte et puis on se dit, ça serait mieux là. Maxence me dit, moi je préférerais après ce tableau-là. Il y a des articulations en quelque sorte dans le texte qui permettent de laisser une place pour la musique, pour la guitare classique. Une guitare particulière que j'ai presque achetée pour l'occasion, enfin pas que, mais quand j'ai vu le texte, j'ai eu envie que ça soit une guitare différente. C'est une guitare classique avec 7 cordes, quelque chose d'un peu particulier, un son un peu qui va dans les graves, et je trouve que le texte va des fois dans le grave, parfois part complètement dans les nuées et revient sur la terre. C'est quelqu'un de très terrestre, très terrien, Mansiette. Et donc, je dirais pas que j'achète une guitare à chaque texte, heureusement, mais pour moi, ça convient vraiment. Le texte a quelque chose de très puissant, de très parfois doux, parfois rude. C'est vraiment un monde, ce texte d'un hiver.
Avant d'en parler un petit peu plus du texte, et puisque vous parlez de guitare, apparemment vraiment vous aimez les guitares autant qu'en jouer, on va écouter un petit morceau que vous avez fait sur une guitare de Thomas Feijos. Donc c'est important pour vous le nom du luthier, vous êtes un peu collectionneur de guitares.
Non. Le collectionneur, il les regarde et regarde ses objets avec délectation. Moi, j'en joue avec délectation. Donc, non, il n'y a pas une seule
amoureux
guitare.
Amoureux de guitare.
Oui, mais c'est vraiment mon médium, qu'on va dire. Mais c'est par contre, toutes les guitares que j'ai, j'en ai quand même un petit paquet. Mais je joue avec régulièrement. Enfin, ce qui est bien, c'est comme une palette. C'est comme une certaine couleur. Il y a des couleurs qui vont bien à des événements, à des idées musicales, et d'autres elles ont besoin d'autres choses. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de guitares. C'est parce que j'ai plusieurs palettes, plusieurs inspirations.
Et donc pour cette improvisation sur le thème bien connu de Antonio Carlos Jobim, vous jouez sur la guitare de Thomas Feijos. Thank you. Radio MDM et c'est Midi à ta porte. Et à l'instant, on écoutait Jules Thévenot pour un morceau intitulé Desaconfinado. Voilà. Et pourquoi on écoutait Jules Thévenot? Parce qu'on est en présence de Jules Thévenot et de Maxence Amiel pour la lecture musicale de Un hiver de Bernard Manciette. On le disait juste avant d'écouter ce morceau, la musique et le texte sont construits comme un dialogue, mais le texte aussi, d'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'une rencontre, c'est ça?
Tout à fait, oui. Alors c'est toujours difficile de parler d'un recueil de poèmes ou d'une écriture poétique, d'essayer de la résumer. Nous-mêmes, je crois, avec Jules, on s'amusait, parce qu'en travaillant sur le texte, on se rendait compte au milieu d'une répétition qu'on n'avait pas compris un poème de la même manière ou un passage. Donc c'est l'histoire, là, effectivement, d'une rencontre entre deux personnes qui se rencontrent sur une plage un jour d'hiver. Et finalement, il n'y a peut-être pas grand-chose à dire de plus. Ce qui est amusant par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, par exemple, on a fait 2, 3, 4 répétitions avant de se rendre compte que moi, je voyais 2 enfants et que Jules voyait 2 adultes. Et que voilà, c'est le genre de choses qui n'est pas forcément précisé et que les mots, selon qui on est, selon dans quel état on se trouve, résonnent d'une certaine manière qui nous font penser là à des enfants, là à des adultes. Mais donc ces deux personnes, en tout cas, qui ne sont pas forcément identifiées, se rencontrent sur cette plage et on va dire, décident d'avoir un bout de chemin ensemble dans cet environnement de plage et de forêt. Voilà, on imagine bien le paysage des Landes où vraiment Manciette a ancré son texte. Et ils vont vivre un hiver de vagabondage, de chasse, de pêche, de tout simplement de vie ensemble. Et ils vont finalement, je vais pas tout résumer, mais à certains moments même être traqué par les autres pour cette liberté peut-être qu'il représente. Voilà.
Voilà ce que dit en substance le texte. Donc 28 tableaux, c'est à chaque fois une rencontre, enfin à chaque fois ils se rencontrent différemment. Enfin, il y a une première rencontre, j'imagine, premier tableau, et puis après...
Oui, c'est ça. Le premier tableau vraiment ancre cette rencontre-là. Et après, on suit... Alors, c'est assez narratif. Hein, on suit les différents événements qui jalonnent ces moments qu'ils passent ensemble. Il y a aussi des ruptures, des disputes, voilà, donc des moments où les personnages un des personnages se retrouve seul, par exemple, puis il se retrouve au hasard d'un certain événement. Voilà, c'est vraiment ce petit moment de vie dont on ne dira pas comment il se termine pour ne pas divulgâcher.
En même temps, ça pourrait être l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est au-delà de l'histoire de ces personnes qui ne sont jamais nommées. On ne sait pas qui ils sont, où elles sont. Enfin, et en même temps, ça pourrait être une histoire de l'humanité avec des tableaux qui parfois sont très nature. Puis il y a les animaux qui interviennent. Puis il y a le sang. Puis il y a vraiment toute une presque une mythologie dans ce texte qui c'est vrai que c'est difficile à résumer. On peut pas résumer. Ça va être interdit pour des je sais pas, le jeune homme de novembre de Manciette, résumer ça, waouh, c'est la fin d'une civilisation landaise du 19e siècle. Mais au-delà de ça, non, c'est pas la fin. L'histoire ne raconte pas ça réellement, mais c'est ce qu'il y a en filigrane. Donc c'est quelqu'un de très riche qui véhiculait beaucoup de... C'était il connaissait beaucoup la mythologie. Il y a énormément de choses qui dépassent complètement l'histoire réelle, enfin l'histoire des personnes, des personnages.
Donc si on veut en savoir plus, on doit aller à voir ça chez Sylvia et Gilles Maurice. Le principe de la scène des ménages, c'est jouer chez les habitants. Un spectacle comme ça, ça s'y prête. Est-ce que vous pourriez imaginer jouer dans une plus grande salle quand même?
Pourquoi pas? En fait, de toute façon, en fait, c'est la question qu'on s'est posée, c'est que c'est complet. A priori, maintenant, Sylvia et Gilles prennent une liste d'attente. ce qui est très bien pour la scène des ménages, c'est très bien pour eux, c'est très bien pour nous. Donc ça veut dire qu'il va y avoir 40-50 personnes peut-être. Et donc on se pose la question, on s'est dit ce matin qu'il allait falloir sans doute prévoir micro pour guitare, micro pour voix. Et donc à partir de là, ma foi, oui, on peut jouer dans des médiathèques avec. J'ai accompagné une lecture à la médiathèque de Mériadec et il fallait absolument de l'électrification. Donc, je sais pas dans Maxence. D'ailleurs, on a déjà lu comme ça. Enfin, déjà.
Oui. Après, sur le. Moi, j'ai envie de dire, nous, on l'a construit. Alors, forcément, c'est une lecture pour voix et guitare avec une guitare classique qu'on a imaginée sans amplification, donc a priori dans une configuration, on va dire, intimiste ou plus intime. Et en même temps, comme dit Jules, maintenant, on a des moyens, des micros, des amplifications qui sont possibles. Et j'ai envie de dire, plus il y a de monde qui sera là pour écouter de la poésie, je ne vais pas... refuser s'il y a une salle de 500 personnes qui commande cette lecture.
Exactement.
Voilà, il faut. Le but, c'est de faire entendre cette poésie. Moi, je crois vraiment beaucoup à l'idée de proposer de la poésie autre part que dans le livre, voilà, au médium de la voix pour faire entendre un texte. Il n'y a pas de limite de jauge.
Oui, c'est ça. La poésie doit être entendue et pas forcément comme moi, je suis une amoureuse des mots mis en musique, mais voilà, plutôt dans ce qu'on appelle communément une chanson. Mais voilà, là, c'est de la poésie qui est accompagnée, pas vraiment accompagnée en fait. Qui est, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un dialogue.
Ouais, c'est un dialogue. Je dirais que, Jules en a parlé tout à l'heure, mais on a voulu, je pense, essayer d'imaginer. Entre les différents tableaux, ces blancs de la page, comment la musique y résonnait, comment la musique résonnait entre deux tableaux. Donc,
sans illustrer.
Voilà, sans illustrer. Ouais. Et surtout, un autre point, c'est que pour moi, qui est important, c'est que c'est une lecture. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas comédien. J'essaye un minimum d'interpréter le texte. Ce qui m'intéresse, c'est de le faire résonner... avec ma voix le plus naturellement possible aussi. Et c'est important pour moi cette distinction c'est pas une... Justement, voilà, on dit lecture, c'est pas un spectacle forcément, c'est pas une mise en... une théâtralisation du texte.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc, restons simples, c'est une lecture. Donc, liste d'attente, mais peut-être que vous allez la rejouer le 18 mars.
Alors, le 18 mars, il est prévu qu'on fasse cette lecture à la librairie Caractère, fin d'après-midi, 19h-20h par là, donc à d'une soirée qui est d'ailleurs organisée autour de Bernard Manciette. Maxence m'a appris qu'on allait jouer cette lecture à Anglette, et c'est un peu notre idée de proposer cette lecture. En fait, elle existe, la part d'improvisation en musique est suffisamment réduite pour être. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de. La lecture existe et donc on a envie de l'essaimer. C'est important d'essaimer, surtout le jour de la Saint-Valentin. Mais.
Fallait la faire.
Oh, écoute. Donc, on a envie de la donner en la donnant. Accessoirement, Maxence lit en français, hein, pas en gascon, mais oui. C'est la traduction.
On n'a pas encore essayé en gascon, mais je ne sais pas si je vais m'y risquer maintenant.
Non, surtout. mais c'est la traduction de. On a l'impression de respecter totalement le texte, puisque. Je veux dire l'auteur, puisque c'est Manciette lui-même qui a traduit en français. Donc, en fait, la lecture est en français. C'est vrai qu'une lecture en gascon, certes, peut toucher des personnes qui aiment beaucoup le gascon, qui cherchent à défendre cette langue. C'est une très bonne idée. Et peut-être qu'en la donnant en français, on défend aussi l'existence d'un poète gascon et on le maintient en vie, en quelque sorte.
Bien, et eh bien belle conclusion. Je vous remercie d'être venu nous parler de cette lecture musicale qui aura lieu donc le 17 février. Pour l'instant, liste d'attente, mais vous pouvez quand même vous inscrire sur la liste d'attente, vous contacter pour ça la scène des ménages. Il faut envoyer un SMS de préférence au 06 75 04 65 11. je le répète parce qu'ils n'ont pas eu le temps de noter, 06 75 04 65 11. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous trouvez tout ça très facilement sur le site de la scène des ménages. On vous retrouvera en podcast dans l'après-midi pour les gens qui ont pris en cours de route. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne journée.